Mathilde Romagnan pour le journal. Bonjour Mathilde.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Alors qu'on entre dans un deuxième jour de reconfinement, le nombre de patients en réanimation ne cesse d'augmenter et certains hôpitaux se disent débordés. L'exemple dans ce journal à Saint-Étienne. Les autres titres.
Oui, après l'attentat de Nice qui a fait 3 morts, nous irons à Vintimille, à la frontière franco-italienne. L'assaillant de nationalité tunisienne y était passé quelques semaines plus tôt pour venir en France. Aux États-Unis, les ventes d'armes augmentent à l'approche de l'élection présidentielle qui aura lieu ce mardi. Et puis les sports et le rugby avec ce soir le 15 de France qui affronte le 15 du trèfle dans ce dernier match du tournoi Destination.
Un mot sur l'invité ce matin à 8h20, Benoît Hamon pour la sortie de son livre « Ce qu'il faut de courage, plaidoyer pour le revenu universel ». C'est aux éditions des Équateurs.
France Inter. Au deuxième jour de reconfinement en France, la situation sanitaire est toujours préoccupante. Plus 49 000 cas de Covid-19 enregistrés en 24 heures, 3 368 personnes en réanimation. Les établissements hospitaliers font face à une deuxième vague plus violente que la première par endroit. C'est le cas dans la Loire, département qui affiche le record du taux d'incidence en France. Le CHU de Saint-Étienne a admis à ce jour plus de malades que lors de la première vague. Le reportage de Mathilde Imberti.
Par contre, je vais vous mettre ce type de choses.
Son cœur de métier, c'est la médecine vasculaire. Mais Patrick Mismetti, chef de service, soigne essentiellement désormais des malades du Covid.
Donc ça, c'est un service conventionnel, non Covid. Et on va arriver dans une unité qu'on a transformée en unité Covid. Cette unité, vous allez voir, elle fait 22 lits. Elle est pleine. Avec des patients qui sont des patients typiques de patients Covid qui peuvent se dégrader très très vite. On en a un qui va partir en réanimation d'ici 2 heures.
Et malgré la déprogrammation des opérations moins urgentes, le service est en ébullition.
Moi je suis infirmière.
Vous êtes essoufflée Justine, vous courez partout?
Un peu ouais, c'était tendu. En fait il y a beaucoup de patients et quand il y a plusieurs patients qui vont pas bien en même temps, toute seule c'est un peu compliqué. On est 4 infirmières fixes et tout le reste tourne d'autres services pour venir renforcer parce que... Voilà, et bon, c'est vrai que ça rend les choses un peu difficiles.
Le CHU de Saint-Étienne fait face à une deuxième vague plus forte encore qu'au printemps.
Et on s'attend à beaucoup plus de malades en fin de semaine prochaine, alors qu'on est déjà au-dessus de la première vague. Si on ne réduit pas la circulation, nous, on ne pourra pas tenir. Virage, j'entends, hein. Ça sera impossible de tenir. On fera le maximum, on va probablement avoir à doubler les chambres, mais on espère que le confinement va stopper ça, qu'on restera dans nos capacités habituelles. Mais grosse tension. Grosse pression.
La Loire affiche le taux d'incidence le plus haut de France, plus de 1000 cas pour 100 000 habitants. Saint-Étienne, Mathilde Imberti, France Inter.
Et les conséquences économiques du reconfinement se précisent. Selon le ministre de l'économie, la dette publique française va s'aggraver. Elle devrait atteindre 119,8% du PIB en 2020. Bruno Le Maire qui a aussi promis d'apporter aux commerces fermés, car jugé non essentiel, un soutien économique massif encore plus puissant que lors du premier confinement. Les rayons livres et culture des grandes surfaces alimentaires et spécialisées seront fermés par souci d'équité face à la colère des libraires, contraints eux de baisser le rideau. Les marchands de jouets, eux, ont déposer un recours devant le Conseil d'État contre les supermarchés.
Un deuxième homme est placé en garde à vue dans l'enquête sur l'attentat de jeudi qui a fait 3 morts à Nice.
Un homme de 35 ans soupçonné d'avoir côtoyé l'assaillant la veille des faits. Le suspect, on le rappelle, est un Tunisien de 21 ans, arrivé en Europe via l'île italienne de Lampedusa. De quoi raviver le débat sur l'immigration et le contrôle aux frontières. Boris Allier est allé à Vintimille, à la frontière franco-italienne, où sont bloqués de nombreux Tunisiens et de fait les migrants qui espèrent passer la frontière. Sont livrés à eux-mêmes.
Khaled a quitté la Tunisie il y a un mois. Un seul objectif pour ce trentenaire, rejoindre la France. Mais avec cet attentat, il craint un renforcement des contrôles.
Nous, en Tunisie, on a 3 religions. On a les juifs, on a les chrétiens aussi. Et on vit ensemble. On n'est pas des terroristes.
À chaque tentative, il a été refoulé par la police aux frontières. Quoi qu'il arrive, il parviendra sans doute à ses fins, selon Enzo Barnaba. Il est écrivain et habite à la frontière.
La frontière est une passoire et les Français sont trompés. En fait, il y a les contrôles, c'est de la mise en scène. Tous les migrants qui sont à Vintimille et qui veulent aller en France, ils finissent par y aller à 99%.
Lui plaide donc pour une vraie coopération européenne pour que le suivi des migrants soit plus efficace. Françoise, une bénévole qui leur vient en aide, est du même avis.
Je pense qu'effectivement, il faudrait qu'il y ait un accueil avec du personnel qualifié qui puisse faire de vraies enquêtes. Il faut qu'on sache aussi d'ailleurs quelle est leur position par rapport à la charia. Mais je pense que tout cela doit se faire sans céder aux premières impressions après cet attentat effroyable.
Et à Vintimille, les migrants comptent beaucoup sur ces bénévoles, le camp de la Croix-Rouge ayant été démantelé il y a 3 mois.
Les effectifs de sentinelles vont passer de 3000 à 7000, annonce du gouvernement hier. Les lieux de culte et les écoles seront particulièrement surveillés. Et dans ce contexte, dans le Gard, une enquête préliminaire a été ouverte hier pour discrimination dans la vente d'un bien. En cause, une affiche placardée sur la devanture d'une supérette de Nîmes, interdisant les femmes voilées à l'intérieur du magasin. La devanture a été vandalisée dans la nuit de jeudi à vendredi. Julie Gascot.
Rideaux baissés, vitrines caillassées, le vival de la rue Bonfa est resté fermé toute la journée. Derrière ce scandale, une affichette placée par le gérant. On pouvait y lire « À compter de ce jour, toute personne voilée ne sera plus autorisée à rentrer dans le magasin. » Intolérable pour Sylvie, elle habite dans le quartier.
On est en France, liberté, égalité, fraternité. Chacun porte ce qu'il veut. Moi, à partir de demain, je n'irai plus chez lui. Avec les attentats, je trouve ça choquant de faire ça. On a l'impression d'être en pleine guerre. Quand on refusait les juifs dans les magasins.
L'affiche n'a tenu que quelques heures, le temps du scandale et du saccage de la vitrine. Une surenchère déplacée pour cet habitant.
Cette femme qui porte un foulard admis par la loi, ce qu'il a fait est illégal. Mais on fait un recours au tribunal, il y a une justice, on ne se fait pas justice soi-même.
La chaîne Casino dénonce un cas isolé, des propos inacceptables. Melek Kojabichak, responsable communication du groupe.
On les condamne fermement. Cet acte va vraiment à l'encontre de nos valeurs puisque... On a pour vocation, en tant que distributeur et commerçant, de répondre aux attentes de tous nos clients dans le respect de la loi qui garantit le libre accès.
Et le groupe Casino appelle au calme pour une désescalade de la violence. Il étudie tous les recours juridiques vis-à-vis du franchisé.
Le reportage de Julie Gascot pour France Bleu Gard-Lozère.
Aux États-Unis, Mathilde, c'est le dernier week-end de campagne avant la présidentielle du 3 novembre.
Oui, depuis plusieurs mois, une frénésie d'achat d'armes traverse le pays en cause la vague de contestation antiraciste qui a provoqué de nombreuses violences et puis la peur que les démocrates ne l'emportent et imposent ensuite une législation plus stricte. Le reportage de Gaëlle Joly dans une armurerie en Floride, dans le comité républicain de Sainte-Lucie.
Josh vient d'acheter un fusil semi-automatique et un pistolet calibre 23. Pourtant, des armes, il en possède déjà une vingtaine, mais ce n'est pas assez et surtout en ce moment.
Bien sûr que c'est à cause des élections. Je ne vais pas laisser les démocrates dicter leurs lois. Moi, je veux pouvoir me défendre. Regardez dans quel monde on vit. C'est un triste spectacle. C'est de pire en pire. Moi, je me protège du gouvernement et des émeutiers et personne ne doit m'empêcher d'avoir un pistolet.
Over 200%. Derrière le comptoir de son armurerie, Brian DeVito, le patron, a vu ses ventes s'envoler, dit-il, de 200%.
Les gens ont peur que les résultats de l'élection soient contestés ou que si Trump repasse, il y ait une guerre civile dans le pays. C'est ça leur crainte. Et là, on a de plus en plus de nouveaux clients qui n'y connaissent absolument rien aux armes, mais qui veulent s'équiper si on vient les attaquer, surtout les femmes, elles sont de plus en plus nombreuses.
Dans la boutique, Josh lui a déjà en tête le cadeau de Noël de sa fille de 4 ans, une carabine 22 long rifle, c'est l'âge, dit-il, pour apprendre à tirer. En Floride, Gaëlle Joly, France Inter.
Et les deux candidats Donald Trump et Joe Biden continuent leur campagne dans les états clés du Midwest. Le Midwest qui est l'une des zones les plus touchées par le coronavirus. Un nombre record de contaminations a d'ailleurs été atteint hier. Plus de 94 000 cas recensés en 24 heures. Au moins 26 morts et plus de 800 blessés en Turquie. Bilan toujours provisoire après un séisme en mer Égée hier de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre a été ressenti jusqu'à Istanbul et à Athènes. Sur place, les dégâts matériels sont importants à Dandolo.
Toute la nuit, les secouristes turcs ont continué de fouiller les décombres d'une quinzaine d'immeubles comptant jusqu'à 7 étages qui s'étaient totalement ou partiellement effondrés sous la violence du séisme. Au petit matin, les recherches se poursuivaient dans 9 d'entre eux, parfois à l'aide de grues. Et des blessés, hagards et à bout de force, continuaient d'être extraits des blocs de béton écroulés, sous les applaudissements des voisins restés jusqu'alors silencieux pour ne pas perturber les secours. Avant le lever du jour, une femme de 52 ans et une autre de 53 ans ont ainsi pu être sauvées, puis une adolescente de 16 ans. Mais la terre continue aussi de trembler. Dans les 14 heures suivant la première secousse, les sismologues ont enregistré pas moins de 315 répliques. Plusieurs hôpitaux d'Izmir, déjà engorgés par la reprise de l'épidémie de nouveau coronavirus, ont dû transférer des patients vers d'autres établissements pour pouvoir accueillir les centaines de blessés du séisme. Les autorités ont par ailleurs installé 10 000 tentes où les familles dont les maisons ont été endommagées viennent de passer la nuit. Anand Loire, Istanbul, RFI pour France Inter.
Aujourd'hui, 31 octobre et d'ordinaire, les enfants se régalent en demandant des bonbons ou un sort.
Oui, mais aujourd'hui, avec le confinement, difficile de fêter Halloween. Certains vont se déguiser en famille, mais forcément, ça ne ressemblera pas aux années passées, Bruno Blanza.
S'il prévoit d'enfiler sa tenue de vampire, Sevan va devoir fêter Halloween à la maison.
D'habitude, des fois, il y a les pompiers et tout qui nous accompagnent pour aller toquer pour les bonbons. Mais là, on ne peut pas parce qu'il y a le truc à respecter dès une heure.
Cette année, pas de bonbons.
Non, mais on peut en acheter quand même.
Il ne manquerait plus que ça, privé et de sortie et de bonbons. Gabin ne semble pas d'accord.
Du coup, moi, je pense qu'on devrait en acheter nous-mêmes et manger.
Impossible avec le confinement de fêter Halloween entre amis. Alors pour ne pas priver ses enfants de ce moment, Patrice avait anticipé.
Les enfants étaient déguisés, on était chez une amie qui a un jardin, où il y avait des activités, des choses cachées dans le jardin, voilà, c'était bien. Les enfants étaient contents, on ne regrettait pas de l'avoir fait.
Et surtout Victor, déguisé...
En pirate. Oui, et mon copain, mon œuf, mon squelette.
Un minot de 4 ans et demi qui s'est bien sûr régalé.
Et on a fait une sauce, on a trouvé des bonbons en dessous, on a mangé plein de bonbons. C'est un ballon vampire qui était énorme.
Un peu plus d'un Français sur 10 considère Halloween comme un vrai moment d'amusement.
Et que ce week-end...
Et cette année, les frissons, ce sera à la maison.
Bruno Blanza, donc pour France Bleu Provence, notez que ce week-end pour les retours de vacances de la Toussaint, les déplacements d'une région à l'autre seront tolérés malgré le confinement.